Service. Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Voilà, nous parlons de la corruption, la procédure juridique en cas de corruption. Vous êtes victime de la corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire, Maître Malher Moudekereza, comment est-ce qu'on peut définir la corruption?
Oui, d'une manière très simple, la corruption est une perversion de la procédure normale qui consiste pour la personne qu'on appelle le corrupteur à proposer des avantages, de l'argent ou à promettre des avantages à une autre personne qu'on appelle le corrompu afin que cette dernière lui octroie des faveurs dans le cadre de son travail, lui accorde des prestations qu'elle doit effectuer dans le cadre de son travail, mais qu'elle lui accorde de manière avantageuse moyennant rémunération. Donc c'est une pratique tout à fait illicite,
oui,
qui est réprimée par la loi.
Et on signale que la corruption affecte tous les secteurs de la vie nationale en République démocratique du Congo. C'est devenu un mode de vie pour certaines personnes qui se font corrompre sans gêne. Et pour certains, l'éradication de ce mal, de ces fléaux, exige des sanctions exemplaires et sans complaisance. Alors quelle est la procédure juridique à suivre?
Bon, comme
devant un cas de corruption.
Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord être d'accord avec vous pour dire que la corruption, c'est un fléau qui empêche le développement du pays dans la mesure où elle fausse toutes les règles du jeu par rapport à la gestion de l'affaire des affaires de l'État ou des affaires privées.
Oui.
Et donc par rapport à cela, effectivement, elle mérite d'être combattue avec la dernière énergie si l'on veut que le pays s'engage vers la voie du développement. Alors cela dit, c'est une infraction, donc c'est une violation de la loi pénale. Et par rapport à cela, ce sont les modes ordinaires de saisine des autorités judiciaires qui sont en vigueur, c'est-à-dire la plainte ou bien une dénonciation par un tiers. Toute personne qui est au fait de faits de corruption, d'actes de corruption, est tenue en tant que citoyen à les dénoncer auprès de l'autorité judiciaire afin que les auteurs, l'auteur actif et l'auteur passif, c'est-à-dire celui qui corrompt et le corrompu, soit attrait en justice et sanctionné sévèrement par rapport à la loi. Donc la dénonciation ou la plainte de la personne qui a fait l'objet d'une tentative de corruption est recommandée comme mode de saisine de l'autorité judiciaire. Mais il y a aussi la saisine d'office, c'est-à-dire que l'autorité judiciaire qui est au courant de faits de corruption peut, de sa propre initiative, se saisir de ce dossier et sanctionner. Alors,
actuellement, on parle de l'opération tolérance zéro.
Opération tolérance zéro. Je voudrais ici justement dire que parmi ces modes de saisine que j'ai énoncés tout à l'heure, j'ai parlé de la dénonciation.
Oui.
Et la forme la plus courante des dénonciations, c'est justement le travail que fait la presse dans notre pays. Il y a beaucoup de faits de corruption qui sont dénoncés par la voix de la presse. En ce moment-là, l'autorité judiciaire est censée se saisir de cette information et ouvrir une enquête pour vérifier les faits qui sont ici portés à la connaissance du public. Malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas dans la pratique.
Oui. Alors, je suis par exemple un opérateur économique et je devais être en République démocratique du Congo pour dire, alors, les services de l'État, un des responsables m'exige, voilà, il faut une commission, sinon le dossier ne passe pas. Que dois-je faire dans ces cas?
Oui, très bien. La question que vous posez est très intéressante dans la mesure où la loi actuelle, notre code pénal, a subi une importante modification en 2005 qui fait que l'on parle désormais de corruption et des actes qui y sont assimilés. Alors ce que vous venez d'évoquer là-bas, on appelle ça la concussion, c'est-à-dire un acte que l'on devait, ou bien un service que l'on devait vous rendre normalement, de manière gratuite, parce que cet acte-là rentre dans les attributions de la personne que vous sollicitez, que vous contactez, mais elle vous dit que pour poser cet acte, il faut que vous puissiez lui donner un avantage quelconque. En ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle la concussion, mais la loi a en fait une infraction assimilée donc à la corruption, et punit cet acte considéré comme tel, comme acte de corruption. Ça veut dire que la nouvelle loi a ouvert la définition de la corruption et y a fait entrer toutes les situations telles que celles que vous venez d'évoquer, Jody Kachama, c'est-à-dire les actes qui sont traditionnellement connus comme des actes de concussion, c'est-à-dire quelqu'un qui demande de l'argent pour un service qu'il est censé normalement donner de manière gratuite. C'est ce qui arrive justement pour nos, les investisseurs qui viennent parfois et qui se retrouvent devant des agents, des fonctionnaires de l'État qui leur demandent de l'argent pour qu'ils puissent effectuer les actes qu'ils sont censés faire de manière ordinaire. Et c'est vraiment déplorable parce que ça décourage les investissements. Mmh. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la corruption est un véritable fléau par rapport, une véritable entrave au développement de l'État.
Vous avez des questions, des réactions, composez le 081 ou écrivez-nous à service@radiocapi.net ou soit envoyez un SMS au 081 070 2050. Vous avez dit donc qu'il y a deux procédures, il y a la plainte ou soit la dénonciation, et surtout par voie des presses.
Oui, oui, il y a la dénonciation, mais j'ai aussi dit qu'il y a la saisine d'office. Hein, donc, si l'autorité judiciaire est au courant par ses propres moyens, ses propres voies, des faits de corruption, elle est censée se saisir d'office parce qu'il s'agit d'un trouble à l'ordre public, donc il s'agit de violations de la loi pénale, et par rapport à ça, elle n'a pas à attendre qu'il y ait nécessairement une plainte ou une dénonciation. L'autorité judiciaire qui est au courant des faits de corruption peut s'en saisir d'office. Donc, il y a trois modes principaux de saisine, plainte, dénonciation et saisine d'office par l'autorité judiciaire.
Voilà, n'hésitez pas à nous appeler, il y a un auditeur qui est déjà en ligne. Jean-René nous appelle depuis Kananga. Bonjour Jean-René.
Je vous écoute.
Oui, bonjour, allez-y.
Bonjour, bon, ma préoccupation est celle-ci.
Oui.
Y a-t-il vraiment une nuance entre l'escroquerie et la corruption, et concussion aussi?
Merci, Maître Malheur.
Oui, effectivement, c'est formellement ces trois infractions différentes. L'escroquerie, c'est l'infraction qui consiste à user de fausses qualités, de manœuvres, pour faire croire à quelqu'un qu'on a une qualité qu'en réalité on n'a pas. Et ça, dans le but d'amener cette personne à vous remettre de l'argent ou un bien qu'elle détient. Par exemple, vous faites passer pour quelqu'un qui a des entrées dans une ambassade pour obtenir le visa. La personne vous remet son argent et il s'avère plus tard que la manœuvre consistait tout simplement à vouloir le soutirer de l'argent. Ça, c'est l'escroquerie, un cas typique. Tandis que la concussion, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'infraction qui consiste à demander de l'argent pour un travail qu'on est censé faire normalement, pour lequel on est payé, et donc pour lequel on est censé ne rien demander. Et quand vous demandez de l'argent pour un travail comme celui-là, vous faites de la concussion. Et la corruption, elle, est une notion que nous venons de définir tout à l'heure, c'est-à-dire le corrupteur, qui est la personne active dans ce cas-là, propose à une autre de l'argent ou un avantage quelconque, afin qu'elle puisse obtenir de cette personne là-bas une prestation de manière avantageuse et illicite. Donc ces trois infractions en principe formellement différentes, mais j'ai dit tout à l'heure que dans le nouvel entendement de la corruption dans notre pays, avec la réforme de 2005, les actes proches de la corruption comme la concussion sont finalement aussi réprimés comme étant une forme de corruption. C'est-à-dire lorsque vous, agent de l'État ou une personne quelconque, vous demandez à quelqu'un de l'argent pour un travail que vous êtes censé faire gratuitement et de manière normale, vous êtes là dans l'infraction de corruption telle qu'elle est maintenant définie.
Il y a certaines personnes, vous allez soit dans un service de l'État, on vous dit papa tomé la tamo mai ou moi secret. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de moi ma déswabana, est-ce que c'est une forme de corruption, maître
Jody Kachama? L'observation est très bonne parce que ce qui me plaît avec vous, ce que vous parlez comme un spécialiste de la question, effectivement, c'est tout. Il n'y a pas, en matière de corruption, il n'y a pas de petits péchés, péchés véniels et des péchés mortels.
Oui.
C'est-à-dire que ce sont ces petits actes là que l'on qualifie parfois par des mots assez doux, des suyabana, vous voyez ça.
Moi, maï, tomé la moi, maï.
Tomé la maï, matabiche, etc. C'est des mots qui cherchent à cacher, en fait, un mal profond. Et donc, la corruption récupère tous ces petits vocables-là. Et il s'agit sincèrement de la corruption dans la mesure où on cherche à obtenir des privilèges, des faveurs, moyennant une rétribution. Et ce qui fait qu'en ce moment-là, vous êtes favorisé par rapport à d'autres, ça fausse la libre concurrence, la concurrence saine au sein de la société. Tenez par exemple, ce qui se passe au niveau le plus bas se passe aussi au niveau le plus haut, par exemple pour l'obtention des marchés publics. C'est la même chose, hein. Mais en réalité, la personne obtient un marché public en violant toutes les règles de l'accession au marché. Donc vous comprenez que c'est un véritable fléau qui est réprimé sous toutes ses formes, même si par ailleurs les corrupteurs et les corrompus cherchent à lui donner une apparence d'acte innocent. C'est vraiment un véritable mal.
Et par exemple, quelqu'un qui vous rend service et avant de partir, vous dites hein, prends ça, c'est pour ton transport, ou bien est-ce que c'est un acte de corruption, maître?
Non, au sens strict de la loi, c'est-à-dire pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait collaboration. Complicité entre les corrompus et le corrupteur. Il faut qu'il soit entendu au moment où l'avantage est donné, ou au moment où la promesse d'un avantage est donnée, il faut qu'il soit entendu que c'est en contrepartie du service que l'on doit vous rendre. C'est à ce moment-là qu'on parle de corruption. Mais lorsque la personne a agi de bonne foi, a rendu les services dans le cadre de son activité normale, et qu'à la fin, on la remercie, en réalité, il ne s'agit pas strict au sens de la corruption. Mais de plus en plus de personnes...
On la prépare psychologiquement parce que la prochaine fois quand vous allez revenir, il va aussi, la personne va encore vous rendre service.
C'est là que ça devient subtil en ce moment-là. Vous êtes en train de corrompre. Dans la mesure où quand la personne aussi reçoit cette rémunération, elle se prépare psychologiquement à vous rendre désormais
les services.
Donc quand vous venez en rang, elle vous fait passer avant tout le monde sur la file parce qu'elle sait que généralement, après ça, lui, il fait un geste.
Un geste
donc, ça fausse les règles du jeu et ça devient de la corruption.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Athanase est en ligne depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question?
Alors, ma question est celle-ci.
Oui.
Ce qui pousse les gens à être corrompus, ce n'est pas les autorités qui payent très mal le salaire, parfois qui sautent deux ou trois mois. Comment ces gens-là peuvent vivre en réceptionnant l'argent qui entre dans la caisse de l'État? Même les enseignants, la même chose. Les policiers de village, la même chose. On n'augmente pas les salaires des gens. Et je donne l'exemple. Par exemple, en Suisse, les rouages, ils vous touchent 5 000 $. Alors, celui-là, tu ne peux pas le corrompre avec 100 dollars parce que si on l'attrape, il va perdre tous ses avantages qu'il a. Et sa pension aussi est bien assurée. Mais pourquoi on doit attaquer en bas au lieu d'attaquer en amont aussi? Merci beaucoup.
Merci, monsieur Athanase. C'est très malheureux.
Oui, je suis tout à fait partiellement d'accord avec la réflexion de notre frère Athanase, dans la mesure où il tend à affirmer que là où les gens sont bien payés, il n'y a pas de corruption. Ce qui n'est pas vrai. La corruption, d'abord, comme disait, je crois, un ancien politique, n'est pas un terme africain ni congolais. C'est un terme français. Et s'ils ont mis ce terme dans les dictionnaires, c'est que le phénomène existe chez eux. Donc, même là où les gens sont bien payés, malheureusement, il y a des formes de corruption. Et ce qui est vrai, c'est que ici chez nous, le phénomène est un peu plus prononcé, parce que sur, je crois, il y a une échelle là où un classement des pays corrompus dans le monde. Je pense que nous figurons parmi les pays où le taux de corruption est vraiment le plus élevé. Et donc, par rapport à ça, il a raison. Il a raison dans la mesure où parmi les causes de la corruption, il y a au fait le phénomène de la modicité des salaires. Ça, c'est vrai. C'est comme pour le vol. Le fait d'avoir faim incite certaines personnes à entrer dans les champs d'autrui et à prendre un épi de maïs à le manger. Donc c'est vrai, c'est parmi les causes de la corruption, mais dans tous les pays du monde, le phénomène de la corruption est observé. Alors ici chez nous, il n'y a pas que ça, il y a tous les problèmes de la bonne gouvernance, il y a l'impunité surtout. C'est lorsque le corrupteur et les corrompus se rendent compte que finalement ils ont posé leur acte sans qu'ils ne soient inquiétés.
Ils sont pas inquiétés, oui.
Et donc ça les encourage à continuer. Voilà pourquoi il faut absolument que la lutte contre la corruption soit renforcée dans notre pays pour essayer de juguler, de faire reculer ce problème. Mais l'éradication, c'est un idéal quasiment utopique dans la mesure où même dans les pays les plus développés, la corruption existe, mais à un taux moins élevé que le nôtre.
Vous avez parlé de la dénonciation, mais si les corrompus et les corrupteurs se plaisent, ça devient difficile, maître.
Oui, mais il peut y avoir des témoins de l'opération. Donc, par rapport à cela, justement, ces témoins témoins-là qui dénoncent sont généralement en danger parce que et les corrupteurs et les corrompus qui sont complices ne sont pas contents que les faits qu'ils ont posés soient portés à la connaissance de la justice. Généralement, ça met en danger les témoins. Et par rapport à cela, la loi, avec la réforme de 2005, prévoit que l'État puisse organiser la protection spéciale des témoins et des dénonciateurs en matière de corruption. Malheureusement, tous ces mécanismes prévus par la loi sont vraiment inappliqués. La loi elle-même en matière de répression des crimes de corruption est inappliquée. Et donc, par rapport à cela, le phénomène de l'impunité encourage beaucoup la corruption dans notre pays, très malheureusement. Il s'est tenu, je crois, le 6 décembre 2009, si ma mémoire est bonne, en tout cas autour de cette date, un forum national sur la lutte contre la corruption, à l'initiative de l'OSCEP, qui est un organisme de l'État. Eh bien, par rapport à cela, le constat a été fait que les lois sont généralement bonnes, elles méritent d'être renforcées un peu, mais la loi que nous avons actuellement est bonne parce qu'elle est très répressive en matière de lutte contre la corruption, mais malheureusement, elle n'est pas appliquée. C'est ça le problème dans notre pays. La loi est là et n'est pas appliquée. Et donc, les corrupteurs, finalement, s'en donnent à cœur joie et la corruption devient comme un sport national, comme disait quelqu'un, ce qui discrédite totalement notre pays par rapport aux investisseurs qui veulent venir.
Et certains disent que même la justice est touchée par ce mal, par ce fléau.
Bon, ça a été dit par les plus hautes autorités du pays. Ils ont dit que la justice, à un moment donné, en tout cas, était tombée aussi dans ce travers. Et des mesures ont été prises. Il y a eu des sanctions qui avaient été prises. Il y a des réformes qui sont en cours. Ça veut dire que l'État lui-même reconnaît que le phénomène a touché aussi ce secteur-là. Et c'est ça qui est dangereux dans la mesure où la personne qui est censée apporter la répression, elle-même a été touchée par le mal. Et donc, il était vraiment très important. Je crois que les choix du gouvernement étaient bons. Commencer par la lutte contre la corruption dans les secteurs de la justice et de l'étendre à d'autres secteurs comme cela est en cours dans l'administration publique où des mesures aussi ont été prises. Donc ce sont des choses qui doivent être encouragées. Mais comme disait notre auditeur tout à l'heure, eh bien il faut que l'État ne puisse pas frapper seulement du menu frétin. Il faut que l'on puisse aussi atteindre véritablement ce qu'on appelle ici généralement les koulounas. Les koulounas comment? En cravate.
En cravate, les gros poissons.
Oui, les gros poissons. Et c'est là qu'il y a des détournements incroyables des fonds publics en termes de milliards, comme disait un député récemment sur une des chaînes de télévision locales. Eh bien, s'il y a des détournements à l'échelle des milliards de dollars, vous comprenez que le développement du pays est tout à fait compromis. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut frapper, sans omettre, évidemment, de sanctionner les petits corrompus sur la route, etc., qui rançonnent les gens. Mais il faut aussi viser très haut, et à ce moment-là, on peut avoir l'espoir que le phénomène peut reculer un peu. Effectivement, si on s'attaque au menu frétin, on laisse les gros poissons nager dans un océan de corruption sans être inquiété, bien là, c'est peine perdue, quoi.
Voilà, Blanchard est en ligne depuis Mbandaka, bonjour.
Oui, bonjour, jeudi.
Quelle est votre question?
Oui, je voudrais poser la question à l'invité.
Oui.
Quelles sont les sanctions que prévoit le droit pénal congolais pour pouvoir punir les corrompus et les corrupteurs? Parce qu'on ne peut pas parler d'une infraction sans texte. Alors, s'il peut nous préciser les textes qui prévoient les sanctions contre les gens qui font la corruption. Ça, c'est la première préoccupation.
Oui.
La deuxième, il y a des fois, parce que moi, je suis étudiant, je fais la faculté des droits. Il y a des enseignants qui nous donnent les cours des droits, mais ils obligent aux étudiants de toujours détrôner la vertu pour corrompre. Alors, dans des pareils cas, que doivent faire ces étudiants qui sont contraints de faire la corruption?
Merci.
Pour éviter les échecs et d'autres histoires. Là. Voilà.
Merci Blanchard. John Peter nous appelle aussi depuis Siro. Bonjour John.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. J'ai une seule question à poser à votre invité.
Oui.
Ici en RDC, la corruption et la concussion, dit-on, se portent à très bonne santé parce qu'elles payent mieux. C'est ce que l'on dit.
Oui.
Mais quand bien même il faut aller dénoncer ou bien se plaindre, à quoi faudrait-il que vous puissiez aussi soudoyer les juges pour avoir gain de cause? dans ces conditions, à quel fait doit-on alors se douer? Parce que celui qui est censé rendre justice est aussi corrompu. Voilà ma préoccupation.
Merci John Peter, Maître Malheureux.
Oh là là, nous avons donc des auditeurs très très fins dans les questions. Mm-hmm. Je commence par celle des Blanchard, il y en a deux. Les sanctions sont à trouver dans le code pénal congolais livre 2, à partir des articles 147 à 150. Alors, pour prendre un des articles, je prends l'article 149, dans la forme, ou bien 148 pour commencer, dans sa forme la plus simple, la corruption est punie de 6 mois à 2 ans. Ainsi que d'une amende qui peut aller de 50 000 francs à 200 000 francs congolais. Mais dans sa forme aggravée, c'est-à-dire à l'article 149, lorsque la corruption est donnée pour obtenir un acte qui est injuste, par exemple. Bon, lorsque l'acte qui est sollicité est un acte juste qui rentre dans les attributions normales de la personne, eh bien la peine va de 6 mois à 2 ans. Mais lorsqu'il s'agit d'obtenir un acte injuste, cette peine est aggravée. Mmh. Et en ce moment-là, la peine peut aller jusqu'à 15 ans de prison, qu'on appelle servitude pénale dans le code pénal, ainsi qu'une amende qui peut aller de 500 000 francs congolais à 1 million de francs congolais. Donc les articles 148 à 149 nous donnent des exemples de sanctions, pardon. Mmh. Et parmi les circonstances aggravantes, le code pénal, à l'article 149 toujours, retient comme aggravant le fait de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres, en usant de la corruption, le fait d'obtenir par voie de gré à gré des droits miniers et des carrières en violation de la procédure d'appel d'offres prévue par les règlements miniers, le fait d'obtenir des concessions forestières en violation des procédures fixé par la loi, etc., etc. Même le fait d'obtenir des avantages fiscaux, oui. Hein, de frauder la douane, etc., tout ça est mis dans le contexte des circonstances aggravantes et là vous allez dans la peine qui peut aller jusqu'à 15 ans de prison au maximum. Il y a aussi le fait d'obtenir un faux témoignage ou d'entraver le bon déroulement de la justice. Mmh. Eh bien tout ça c'est des circonstances aggravantes de la peine et la peine a été portée par la réforme de 2005 à un maximum de 15 ans de servitude pénale. Donc vous comprenez que la corruption est sévèrement sanctionnée par notre code pénal, comme voulait le savoir notre auditeur voilà. Blanchard.
Le deuxième volet de sa question.
Les enseignants de droit qui donnent toutes ces notions.
Qui veulent détrôner les vertus.
Eux-mêmes expliquent la corruption c'est quoi, etc. Mais eux-mêmes ensuite demandent aux étudiants une petite rétribution pour tel ou tel avantage. Mmh. Bon, vous comprenez qu'à ce moment-là, tout enseignant de droit qu'ils sont, ils ne sont pas des citoyens au-dessus de la loi. Et donc, si un enseignant, de droit ou autre, sollicite des avantages pour pouvoir vous donner un retour des points, etc., eh bien, il faut porter plainte. C'est de la tentative de corruption, c'est l'invitation à la corruption, et donc, il peut être rattrapé par la loi.
Seulement, les problèmes peuvent habiller ça à droit d'auteur. Ils vous disent, il faut payer les droits d'auteur.
Oui, effectivement.
sinon, n'allez pas acheter les TP et tout ça, sinon...
du genre, celui qui n'a pas acheté les syllabus ne réussira pas. On ne peut pas dire des choses comme ça. Donc, nous sommes dans la définition de la corruption en général. Et le problème au Congo, c'est que les gens ne dénoncent pas, ne se plaignent pas. Parce que justement, ils n'ont pas confiance à la justice, comme notre auditeur John Peter de Isiro. Qui dit à quoi ça sert d'aller dénoncer les actes de corruption, de concussion, etc. Lorsque l'on sait que lorsqu'on ira devant l'autorité judiciaire, quelle qu'elle soit, OPJ, etc. Elle va elle-même, pour pouvoir agir,
il faut se doyer,
elle va vous demander aussi de donner quelque chose.
Oui.
Et donc, elle rentre elle-même dans la définition de la corruption. Mmh. Et ça devient un cercle vicieux. Vous allez dénoncer, on vous demande de corrompre pour que votre plainte soit examinée. Et il a raison, et c'est pour ça que les autorités se sont engagées dans la réforme de la justice. Nous leur souhaitons bonne chance, en tout cas, parce que c'est une nécessité impérieuse. Alors, si tu permets, Jody, je voudrais juste placer un mot en disant que il est très difficile, comme vous avez dit tout à l'heure, de savoir qu'il y a eu acte de corruption parce qu'il y a complicité entre le corrompu et le corrupteur. Alors la nouvelle loi, la réforme de 2005, a prévu que l'enrichissement illicite soit lui-même considéré comme de la corruption. C'est-à-dire lorsqu'une personne manifestement a son patrimoine qui est agrandi de manière inexpliquée par rapport à son revenu légitime, eh bien ce n'est plus simplement un indice de corruption, mais ça devient de la corruption directement. C'est-à-dire le fait que du jour au lendemain, Jody roule carrosse, alors qu'elle en connaît sa rémunération ordinaire, et qu'il ne s'est pas
expliqué. Par quel miracle il a tout ça.
Le fameux miracle dont on parle au Congo, où on voit les gens du jour au lendemain s'enrichir, eh bien la loi prévoit que cet enrichissement illicite, donc inexpliqué, c'est de la corruption directement, et sanctionné comme tel. Et voilà donc ça facilite donc la recherche des preuves en matière de corruption. Il suffit d'aller vérifier dans les patrimoines de la personne, et dès que le patrimoine s'accroît de manière inexpliquée et soudaine, elle est dans la corruption, elle est supposée légalement avoir fait de la corruption, et ça c'est une évolution importante de notre législation en matière de lutte contre la corruption. Mais est-ce qu'on applique toutes ces belles lois? C'est ça la question.
C'est ça la grande question, Maître Malheur. Voilà, mais pour l'enrichissement, le cas d'enrichissement, là il faut que les témoins aillent dénoncer, ou bien c'est la justice qui constate et puis qui entame des poursuites judiciaires.
Non, non, si vous constatez que votre voisin devient de manière suspecte,
il
très riche...
Que c'est la jalousie, vous êtes jaloux.
Non, non, parce que là, il est prévu que les dénonciateurs soient protégés.
Oui.
Donc, la procédure pénale, le code de procédure pénale propose que votre anonymat soit dans ce cas-là assuré et que vous puissiez être protégé contre les représailles, les représailles des témoins, etc. Et donc, par rapport à cela, c'est pour amener les citoyens, parce que l'État ne sait pas avoir des yeux partout. Le phénomène est véritablement un fléau, et donc il faut que tout le monde y participe. Et la délation, entre guillemets, la dénonciation des faits de corruption est recommandée. Mais malheureusement, dans la pratique, la population admire, au contraire, les personnes qui s'enrichissent comme ça du jour au lendemain, et on les chante partout, etc. Malheureusement, il y a vraiment une inversion des valeurs dans notre pays.
Voilà, Maître Malheur Moudekereza, consultant l'ONG RCN Justice et Démocratie. Je vous remercie.
Merci à vous, Jody. Merci à toute l'équipe d'Okapi Service.
Okapi.